Chapitre 24. Ilium, Indiana, Olympos. Zeus est furieux. Je l'ai déjà vu en colère, mais jamais à ce point. Lorsque le père des dieux entre d'un pas majestueux dans la clinique d'Olympos, considère les dégâts, fixe le corps livide d'Aphrodite gisant sur le sol au sein d'une mare d'asticots grouillants, puis se tourne dans ma direction, je suis sûr qu'il me voit, qu'il a percé à jour le blindage visuel du casque d'Hadès et qu'il me voit. Mais bien qu'il me fixe pendant plusieurs secondes de ses yeux gris et glaciales, puis batte des cils comme s'il venait de prendre une décision, il finit par détourner la tête, laissant vivre l'humble Thomas Hockenberry, anciennement de l'université de l'Indiana et plus récemment de la couche d'Hélène. Mon bras droit et ma jambe gauche sont couverts de bleu, mais je n'ai rien de cassé et, toujours dissimulé aux yeux des dieux qui accourent en masse sur les lieux, je sors du bâtiment et me técu dans le premier refuge qui me vienne à l'esprit, abstraction faite de la chambre d'Hélène, à savoir les baraquements des scoliastes au pied d'Olympos. Sous l'effet de l'habitude, je me retrouve dans ma chambre, devant mon lit dépouillé, mais je laisse le casque d'Hadès activé lorsque je m'effondre dessus. La journée de la veille a été longue, sans parler de la nuit et de la matinée qui l'ont suivie. L'homme invisible dort d'un sommeil agité. Je suis réveillé par des cris et des coups de tonnerre en provenance de l'étage inférieur. Lorsque je passe la tête dans le couloir, mon collègue Blix arrive en courant. Il manque entrer en collision avec moi étant donné que je suis toujours invisible, et tout essoufflé lance à mon autre collègue Campbell
« Camus vient de débarquer pour tuer tout le monde !»
C'est pure vérité. Je me planque dans un coin de l'escalier tandis que la muse, notre chère muse qu'Aphrodite appelle Mélété, massacre les quelques scoliastes encore vivants dans les baraquements embrasés. Elle lance avec ses mains des éclairs d'énergie pure, une méthode tenant du cliché de bande dessinée mais d'une efficacité redoutable sur la chair humaine. Blix est condamné et je ne peux rien faire pour lui, ni pour les autres personnes présentes. Nightanalser, le scoliaste corpulent est le seul ami que je me sois fait ces dernières années. Je fonce dans sa chambre en haletant. Le sol de marbre est calciné, le bois en feu, la vitre fondue, mais je ne vois aucun cadavre carbonisé similaire à ceux qui jonchent couloirs et salles communes. Et aucun de ces derniers ne me paraît assez volumineux pour être celui de Nightanalser. Soudain, j'entends des cris provenant du deuxième étage, puis un silence qui n'est rompu que par le rugissement des flammes. Je jette un coup d'œil par la fenêtre, et je vois la muse passer à bord de son char tiré par des chevaux holographiques. Au bord de la panique et de la suffocation, si la muse était encore à proximité, elle ne manquerait pas de m'entendre tousser, je m'oblige à visualiser Ilium et la taverne où j'ai vu Nightanalser pour la dernière fois. Puis j'empoigne le médaillon técu et m'enfuis. Pas l'ombre d'un scoliaste dans cette fichue taverne. Je fonce sur le champ de bataille. Pas trace de Nightanalser sur la crête où il a l'habitude d'observer les forces troyennes. Je prends le temps de noter qu'Hector et Paris conduisent leurs troupes à l'assaut des Argiens en déroute, puis je me técu dans un coin ombragé situé derrière les lignes grecques, près des pieux et du fossé, où il m'est déjà arrivé de croiser Nightanalser. Il est là, déguisé en Dolops, fils de Clyte, qui va se faire tuer par Hector dans quelques jours si Homère ne se trompe pas. Sans prendre la peine d'adopter un autre aspect que celui d'Hockenberry, j'ôte le casque d'Hadès et me précipite vers mon collègue.
« Hockenberry ? Que ?»
Nightanalser est choqué par mon comportement et par la réaction des Achéens présents sur les lieux. Attirer l'attention est la pire chose que puisse arriver à un scoliaste. Ça, ou se faire incinérer par une muse vengeresse. J'ignore pourquoi la nôtre anéantit ses troupes, mais je parie que je suis en partie responsable de ce massacre des innocents.
« Il faut foutre le camp d'ici !»
Je dois élever la voix pour me faire entendre au milieu des cris, des hennissements et des grincements des chars. Apparemment, les lignes grecques viennent de céder en leur centre.
« Qu'est-ce que vous racontez? Ce jour est un jour des plus importants! Hector et Paris... Qu'Hector et Paris aillent se faire foutre !»
lançais-je en anglais. La muse vient de se técu au-dessus des lignes troyennes, là où Nightanalser et moi-même avons coutume de nous poster, et l'une de ses sœurs pilote son char tandis qu'elle scrute les troupes avec ses lentilles spéciales. Ce n'est pas le morphing qui va nous sauver aujourd'hui. Comme pour nous le prouver, la muse nommée Mélété, ma muse, lève une main et projette un faisceau d'énergie cohérente, frappant un fantassin troyen du nom de Dios, qui est destiné à se faire remonter les bretelles durant le champ 24, à en croire Homer, mais qui meurt par cette belle journée dans un éclair suivi par un tourbillon de chaleur et de fumée. Les Troyens qui l'entourent s'écartent vivement, certains vont même jusqu'à s'enfuir tant ils sont épouvantés par cette manifestation de colère divine en ce jour de victoire promis par Zeus, mais Hector et Paris, qui se trouvent à 400 ou 500 mètres de là, ne se retournent même pas et continuent de mener leur assaut.
« Ce n'était pas Dios,
hoquette Nightenhalser.
C'était Houston.
Je sais !»
Je fais repasser ma vision en mode normal. Houston était notre Benjamin, voire notre Bisu. Je le connaissais à peine. Sans doute s'était-il retrouvé aux premières loges parce que j'étais porté manquant. Le char de la Muse vire sèchement pour foncer sur nous. Ça m'étonnerait que cette salope nous ait repérés. Nous nous trouvons au milieu de plusieurs centaines de soldats et de chevaux, mais cela ne tardera pas. Que vais-je faire? Je peux recoiffer le casque d'Hadès et m'enfuir à toutes jambes, abandonnant Nightenhalser au sort qu'ont déjà connu Plix et les autres. Ce gadget ne pourra jamais nous dissimuler tous les deux aux yeux de la déesse. Nous pouvons fuir tous les deux en direction des nefs noires. Nous ne ferions pas 20 mètres. Le char perd de l'altitude et passe en mode furtif, devenant invisible aux yeux des Grecs et des Troyens. Grâce à notre vision nanodopée, Nightenhalser et moi le voyons fondre sur nous.
« Que faites-vous, bon sang ?» s'écrie Nightenhalser.
Il manque lâcher sa baguette enregistreuse lorsque je l'étreins, passant autour de son corps massif deux bras et une jambe, offrant sans doute un spectacle des plus équivoques. Un bras passé autour de son cou, j'attrape mon médaillon et l'active. J'ignore si ça va marcher. Ça ne devrait pas marcher. De toute évidence, le médaillon TQ est conçu pour transporter celui qui le porte. Un point, c'est tout. Mais mes vêtements m'accompagnent quand je me técue, et il m'est souvent arrivé de transporter des objets dans l'espace de Planck, alors peut-être que le champ quantique créé par le processus de téléportation englobe tout ce qui est en contact avec mon corps. Et puis merde, qui ne risque rien n'a rien. Nous émergeons dans les ténèbres, roulons au pied d'une butte et nous détachons l'un de l'autre. Je jette autour de moi des regards paniqués, m'efforçant de déterminer où je me trouve. Je n'ai pas eu le temps de visualiser correctement ma destination. J'ai tout simplement voulu être ailleurs et nous ai téléportés tous les deux quelque part. Mais où ça? Le clair de lune me permet tout juste de distinguer Nightenhalser qui me regarde d'un air affolé, comme s'il redoutait que je lui saute dessus. Sans lui prêter attention, je scrute le ciel, les étoiles, le croissant de lune, la voie lactée, puis la terre. De grands arbres, un flanc de collines herbeux, une rivière toute proche. Nous sommes toujours sur Terre, la Terre de l'Antiquité tout du moins, mais ce coin ne ressemble ni au Péloponnèse ni à l'Asie mineure.
« Où sommes-nous ? »
demande Nightenhalser en se relevant et en s'époustant.
« Que se passe-t-il ? Pourquoi fait-il nuit ?»«
L'autre bout du monde antique, songeais-je. » Je pense que nous nous trouvons dans l'Indiana. » dis-je à haute voix.
« Dans l'Indiana ?»
Nightenhalser recule d'un pas.
« Dans l'Indiana, 2200 avant Jésus-Christ. Ah, un ou deux siècles près. »
Je me suis encore blessé en roulant sur le flanc de la colline.
« Comment sommes-nous arrivés ici ?»
Nightenhalser a toujours été du genre placide, un peu grognon, certes, comme peut l'être un ours, mais je ne l'ai jamais vu fâché. Il a l'air fâché maintenant. Je nous ai técu ici.
Qu'est-ce que vous racontez là, Hawkenberry? Nous étions à 100 lieues du portail TQ.
Je fais celui qui n'a pas entendu, m'assieds sur un petit rocher et me frictionne le bras. Il n'y a pas de colline dans l'Indiana que j'ai connue, mais il y avait autour de Bloomington, la ville où Suzanne et moi avons vécu, des endroits boisés, rocailleux et un peu accidentés. Pris de panique, j'ai sans doute visualisé, eh bien, mon pays. J'aurais aimé que le médaillon TQ nous transporte également dans le temps, nous fasse atterrir dans l'Indiana du XXe siècle, mais l'air pur et le ciel dégagé n'ont rien à voir avec ceux de mon époque. Qui habite ici en 1200 avant Jésus-Christ? Les Indiens. Ironie du sort, le médaillon TQ nous a peut-être sauvés d'une mort imminente de la main de notre muse, littéralement, pour nous conduire dans le nouveau monde où nous allons nous faire scalper par les Indiens. La plupart des guerriers ne scalpaient pas leurs victimes avant la venue de l'homme blanc, entonne la partie la plus pédante de mon cerveau professoral. Mais je me rappelle avoir lu quelque part qu'il tranchait les oreilles pour prouver qu'il les avait tuées. Voilà qui me rassure. Comme dit une antienne connue, on peut compter sur un meurtrier pour bien écrire ses mémoires et sur un universitaire pour émettre un commentaire déprimant quand on en a le moins besoin.
Hockenberry ? Demande Nathan Elser. Il s'assied sur un rocher de la taille d'un tabouret, en veillant à ne pas trop s'approcher de moi, remarquai-je, et se frotte à son tour les coudes et les genoux.
Chut ! Je réfléchis, lui fais-je.
Eh bien, quand vous aurez fini de réfléchir, peut-être pourrez-vous me dire pourquoi la muse vient de tuer le jeune Houston ?
Cette remarque me met les idées en place, mais je ne sais comment y répondre.
Il se passe des choses chez les dieux, commençais-je. Intrigue, complot, alliance.
Là, vous m'en apprenez beaucoup,
rétorque Nathan Elser, ironisant tout en m'encourageant à poursuivre. Je lève les mains en signe de reddition. Aphrodite voulait m'utiliser pour assassiner Athénée. Nathan Elser en reste sans voix. Il réussit, non sans mal, à refermer la bouche.
« Je sais ce que vous pensez, lui dis-je. Pourquoi moi ? Pourquoi ce vieil Hockenberry ? Pourquoi lui donner un médaillon TQ et le casque d'Hadès ? Et je suis d'accord avec vous. Ça n'a pas de sens.
« Ce n'est pas à cela que je pensais, » réplique Nathan Elser.
Un météore traverse le firmament au-dessus de nous. Quelque part dans la forêt, par-delà la colline, un hibou ulule de façon quelque peu inquiétante.
« Je me demandais seulement quel était votre prénom. »
C'est à mon tour de le fixer sans comprendre. Pourquoi ?
Parce que les dieux nous ont dissuadés de nous appeler par nos petits noms et parce que nous avions peur de faire plus ample connaissance, vu que les scoliastes ont tendance à disparaître et à être remplacés,
déclare mon collègue qui ressemble à un ours, même dans l'obscurité.
« Donc, je voudrais connaître votre prénom. »
Thomas, dis-je au bout d'une seconde. Tom. Et vous ?
Keith,
répond l'homme que je connais depuis 4 ans. Il se lève et se tourne vers la forêt obscure.
Et maintenant, Tom ?
Dans cette forêt, on entend grouiller insectes, grenouilles et autres créatures de la nuit. À moins qu'il ne s'agisse d'indiens prêts à nous sauter dessus. Est-ce que vous savez... Avez-vous déjà campé, je veux dire...
Vais-je mourir si vous me laissez seul dans la nature, c'est ça ?
Coupe Nathan Elser, non. Keith ? Ouais ?
Je n'en sais rien. Probablement. Mais je soupçonne mes chances de survie être plus élevées ici que dans la plaine d'Ilium. Du moins tant que la muse sera sur le sentier de la guerre.
J'ai l'impression que Keith s'inquiète des Indiens tout autant que moi.
Et puis j'ai mes petits gadgets de scoliaste. Je peux faire du feu, utiliser le harnais de lévitation en cas de besoin, me morpher en indien si nécessaire, et m'amuser de mon taser. Donc, vous feriez mieux de vous têcu là où vous devez aller et d'y faire ce que vous avez à faire. Vous me raconterez plus tard, s'il y a un plus tard.
J'acquiesce et me lève. Ça me fait tout drôle d'abandonner mon collègue ici, mais je ne pense pas que j'ai le choix.
Pouvez-vous retrouver votre chemin ?
Demande-t-il.
Revenir ici, je veux dire, pour me récupérer ?
Je le pense.
Vous le pensez ?
Vous le pensez ?
Nathan Elser passe une main dans ses cheveux en bataille.
J'espère que vous n'étiez pas le doyen de votre UFR, Hockenberry.
Fini les petits noms, on dirait. Olympos est le dernier lieu où je souhaite me trouver. Lorsque j'y arrive, les habitants de cette montagne sont rassemblés dans le grand hall des dieux. Après avoir vérifié que le casque d'Hadès est bien fixé sur mon crâne et que je ne projette aucune ombre, je me glisse à l'intérieur du gigantesque pseudo-Parthénon. En 9 années de scolie, je n'ai jamais vu autant de dieux en un seul endroit.
D'un côté du bassin holographique, Zeus se tient sur son trône d'or, plus grand que je ne l'ai jamais vu. Comme je l'ai déjà dit, les dieux mesurent environ 2,50 m de haut, sauf quand ils prennent forme humaine, et Zeus leur rend d'ordinaire un bon maître, tel un adulte divin dominant une foule d'enfants cosmiques. Mais aujourd'hui, il mesure facilement 7 à 8 mètres, et chacun de ses avant-bras musclés est aussi long que mon torse. L'espace d'un instant, je me demande ce que devient cette fameuse conservation de la masse et de l'énergie que mon défunt collègue avait jadis tenté de me faire rentrer dans le crâne. Mais cela importe peu pour le moment. Raser les murs, rester à l'écart des dieux, veiller à ne faire ni geste ni mouvement qui soit susceptible de me faire repérer par ces super-héros au sens affûté, ça, c'est important. Je croyais connaître tous les dieux et déesses, mais ceux dont j'ignore le nom se comptent ici par vingtaine. Ceux qui me sont familiers, à savoir les dieux et les déesses les plus engagés dans la guerre de Troie, se détachent de la foule comme des stars de cinéma dans une réunion de politiciens, mais même le plus minable d'entre eux est 100 fois plus grand, plus fort, plus beau, plus parfait que les stars humaines de mon autre vie. Non loin de Zeus, de l'autre côté du bassin holographique qui semble maintenant diviser la salle comme un fossé, je vois Pallas Athénée, Arès, le dieu de la guerre, de toute évidence sorti de sa cuve de soins qui n'a pas été touchée lorsque j'ai détruit celle d'Aphrodite, et les frères cadets de Zeus, Poséidon, le dieu de la mer qui se montre rarement à Olympos, et Hadès, seigneur des morts. Hermès, fils de Zeus, se tient près du bassin, et le guide et tueur de géants est aussi beau que les statues que j'ai pu voir de lui. Un autre fils de Zeus, Dionysos, le dieu de l'extase, s'entretient avec Héré et, contrairement à l'imagerie en vigueur, on ne lui voit aucun verre à la main. Pour un dieu de l'extase, je lui trouve mauvaise mine, on dirait un homme en train de suivre un régime. Derrière eux, plus antiques que les âges, il y a Néré, le véritable dieu de la mer, le vieil homme des légendes. Il a les mains et les pieds palmés, et on aperçoit des ouïes sous ses aisselles. Les moires et les érignesses sont venues en force, interposées par le hasard ou par dessein entre les dieux et les déesses. Il s'agit plus ou moins de déités, mais elles exercent un pouvoir de régulation sur les dieux. Elles sont d'apparence moins humaines que ces derniers, et je confesse que je ne sais presque rien sur elles, excepté qu'elles ne vivent pas sur l'Olympe, mais sur l'un des 3 volcans qui se dressent au sud-est, près de la résidence des muses. Mélété, ma muse, est là, elle aussi, en compagnie de ses sœurs Mnémée et Aoïdée. Les muses plus modernes sont également présentes. Calliope, Polymnie, Uranie, Erato, Clio, Euterpé, Melpomène, Terpsichore et Thalie. Derrière elles se trouvent les déesses de première catégorie. Aphrodite n'est pas parmi elles, c'est la première chose que je remarque. Si elle était ici, je serais aussi visible à ses yeux que ses déités le sont aux miens. Mais sa mère, Dionée, est présente, en grande conversation avec Héré et Hermès. Près de ce trio se trouve Déméter, déesse des moissons, et sa fille Perséphone, l'épouse d'Hadès. Plus loin, j'aperçois Pasitée, l'une des Grâces. Encore plus loin, tenant leur rang plus modeste, il y a les Néréides, dépoitraillées, belles et traîtresses. La métadéesse dénommée Nuit se tient à l'écart. Son voile et sa robe sont d'un pourpre si sombre qu'il en paraît noir, et les autres dieux et déesses l'évitent soigneusement. Je ne sais rien sur elle, hormis des rumeurs selon lesquelles Zeus lui-même la craint, et c'est la première fois que je la vois à Olympos. Je me sens dans la peau d'un fan de base le jour de la remise des Oscars, cherchant à trier les superstars des divinités mineures. Hébé, par exemple, qui se tient à proximité des dieux, c'est la déesse de la jeunesse, la fille de Zeus et d'Héré, mais elle n'est qu'une humble servante. Et là, Héphaïstos, le grand artificier aux cheveux de flamme, en train de bavarder avec sa femme, Charis, qui n'est que l'une des Grâces. La hiérarchie divine, songeais-je pour la énième fois, est un véritable sac de nœuds. Soudain, la déesse Iris, messagère de Zeus, s'envole, littéralement, et claque des mains.
« Le père va parler !»
annonce-t-elle d'une voix aussi claire qu'un solo de flûte. Aussitôt, tout bruit cesse jusqu'au plus humble murmure, et le silence se fait dans le hall immense. Zeus se lève. Son trône d'or et les marches d'or qui y montent rayonnent d'un éclat qui l'inonde de ses feux divins.
Entendez-moi tous, dieux et déesses.
Dit Zeus d'une voix douce mais si forte que je sens vibrer les hauts murs de marbre.
Aujourd'hui, l'un de vous a tenté de blesser Aphrodite qui gît maintenant dans notre salle de soins, et bien qu'elle ait échappé à la mort. Son état est des plus critiques et plusieurs jours seront nécessaires à sa guérison. Aujourd'hui, un dieu ou une déesse a tenté de tuer un immortel, a tenté de tuer l'un de nous, qui ne sommes pas promis à la mort.
Un brouhaha confus naît, monte, prend de l'ampleur, envahit la vaste salle jusqu'à devenir grondement.
Silence !
Tonne Zeus. Cette fois-ci, sa voix est si puissante que j'en tombe à la renverse, glissant sur le sol de marbre tel un fétu de paille emporté par une tempête. Heureusement, je ne heurte ni dieu ni déesse dans ma chute, et le bruit que produit celle-ci est étouffé par les échos du cri divin.
« Entendez-moi, ô dieu et déesse !»
reprend Zeus, dont la voix me semble amplifiée par un haut-parleur surgi de l'enfer.
« Qu'aucun dieu, qu'aucune déesse ne tente d'enfreindre mon ordre ! Vous allez vous soumettre à ma volonté ? Et tout de suite !»
Cette fois-ci, je me suis préparé à l'ouragan et je m'accroche à une colonne jusqu'à ce qu'il soit passé.
« Écoutez-moi, »
murmure Zeus, dont la douceur de sa voix accentue encore plus sa puissance.
« Celui ou celle qui violera mon décret, en aidant les Troyens ou les Achéens, comme cela s'est produit ce mois-ci, sentira ma foudre et mon tonnerre. » Et s'en reviendra à Olympos en piteux état, pour en être ensuite banni dans une éternelle disgrâce. Défiez ma volonté, et vous serez jeté dans le Tartare brumeux, à l'autre bout de l'espace et du temps, au fond de l'abîme qui règne en dessous de nos mois quantiques.
Alors même qu'il prononce ces mots, la fosse holographique se met à bouillonner, vire au noir absolu et devient autre chose qu'un hologramme. Le bassin rectangulaire, grand comme 12 piscines olympiques mises bout à bout et empli d'une huile noire agitée de convulsions, émet soudain un rugissement et devient une brèche ouverte sur quelque horrible gouffre ténébreux. Il en monte une puanteur de soufre et les dieux et les déesses ont un mouvement de recul.
« Voyez le Tartare !»
s'écrie Zeus.
Aussi loin au-dessous de l'enfer que le royaume d'Hadès est au-dessous de la terre. Vous souvenez-vous, je m'adresse aux plus anciens d'entre vous, des 10 années que nous avons passées à livrer bataille aux titans dont le règne a précédé le nôtre. Vous rappelez-vous que j'ai jeté Cronos et Rhea, mes propres parents, par-delà ces portes de fer et ces seuils embrasés, sans parler de Japet pourtant doué de pouvoirs divins?
Le silence n'est rompu que par les rugissements, les hurlements, les beuglements étouffés montant du Tartare béant. Il ne fait aucun doute pour moi que c'est une brèche ouverte sur l'enfer et non un hologramme, une brèche distante de 10 mètres à peine de l'endroit où je me tapis.
« Si j'ai envoyé mes parents passer l'éternité dans cet abîme suprême !»
tonne Zeus.
« Pensez-vous que j'hésiterai une seconde avant de vous envoyer les rejoindre ?»
En guise de réponse, dieux et déesses reculent de quelques pas supplémentaires. Zeus a un sourire glaçant.
« Venez donc me mettre à l'épreuve, ô dieu, et vous saurez !»
Un gigantesque câble d'or tombe du plafond, atterrissant de part et d'autre de la brèche sur l'enfer. Dieux et déesses s'égayent pour l'éviter. Il frappe le marbre à grand fracas. Plus épais qu'une haussière, il semble tressé de milliers de tiges en or massif. Il doit peser plusieurs tonnes. Zeus descend de son trône à vive allure et saisit le câble, le soulevant sans la moindre difficulté.
« Attrapez l'autre bout !»
ordonne-t-il d'un ton enjoué. Dieux et déesses se regardent sans oser bouger.
« Attrapez l'autre bout !»
Des centaines d'immortels, aidés de leurs serviteurs, s'empressent de lui obéir, s'emparant du câble tels des enfants jouant au tir à la corde durant un pique-nique. Une minute plus tard, Zeus se dresse au bord du Tartare, tenant le câble d'un air décontracté, et de l'autre côté de la fosse, c'est toute une foule de déités qui s'accrochent aux tresses d'or de leurs mains puissantes.
« Faites-moi choir, » déclare Zeus. « Faites-moi choir du ciel à la terre, de la terre aux enfers et des enfers dans les abîmes du Tartare. Faites-moi choir, vous dis-je. »
Pas un muscle divin ne tressaille.
« Faites-moi choir, je vous l'ordonne !»
Zeus agrippe le câble doré et se met à tirer. Les sandales divines glissent sur le marbre en couinant. Plusieurs centaines de dieux et de déesses en file indienne sont attirés vers la fosse, tantôt trébuchant, tantôt tombant à genoux.
« Tirez donc, nom de Dieu !»
tempête Zeus.
« Tirez, ou vous vous languirez dans les profondeurs du Tartare jusqu'à ce que le temps pourrissant se détache des eaux de l'univers !»
Zeus tire de plus belle, et ce sont 20 mètres de câbles d'or qui coulent derrière lui. L'enfilade de dieux et de déesses, de grâces et d'érignes, de néréides et de nymphes, et que sais-je encore, seule la nuit purpurine ne joue pas au tir à la corde, se rapproche dangereusement de la brèche. Athénée se trouve au premier rang, et elle n'est qu'à 10 mètres de la fosse lorsqu'elle s'écrie
« Tirez, ô dieu ! Renversez ce vieux salopard !»
Arès et Apollon, Hermès et Poséidon, les plus puissants des dieux, se ressaisissent. Il cesse de glisser. Le câble se tend, s'effiloche sous la tension. Les déesses piaillent et tirent à l'unisson. Hérée, l'épouse de Zeus, se montrant la plus dure à la tâche. Le câble d'or se met à vibrer. Zeus éclate de rire. Il lui suffit d'une main pour assurer le match nul. Il empoigne le câble de l'autre et tire. Les dieux hurlent comme des enfants sur des montagnes russes. Athénée et ses plus proches alliés glissent sur le marbre comme sur de la glace, près de sombrer dans le Tartare, tandis que plusieurs douzaines d'immortels défaitistes s'empressent de lâcher le câble. Mais Athénée refuse de céder. La déesse aux yeux gris est irrésistiblement attirée vers l'abîme fumant. Il semble que toute une foule de dieux tétanisés par l'effort va l'y suivre. Zeus part d'un nouveau rire et lâche le câble. Plusieurs vingtaines de dieux et de déesses tombent à la renverse, se recevant sur leur immortel derrière.
Ô dieux et déesses, mes enfants, frères et sœurs, fils et filles, cousins et serviteurs, vous ne pouvez rien contre moi,
déclare Zeus. Il retourne s'asseoir sur son trône.
Même si vous vous arrachiez les bras à force de tirer, même si vous vous tuiez à la tâche, jamais vous ne pourriez me faire bouger d'un pouce contre ma volonté. Je suis Zeus, le plus noble et le plus puissant des rois.
Il lève un doigt énorme.
Mais, si j'avais choisi de tirer sur ce câble, je vous aurais précipité loin d'Olympos, vous laissant suspendu dans les ténèbres au-dessus du Tartare, au-dessus de la terre et de l'océan. Et j'aurais noué l'autre bout à cette colline qu'on appelle Olympos, vous abandonnant au sein de la noirceur jusqu'à ce que le soleil meure de vieillesse.
Si je n'avais pas vu ce que je viens de voir, je dirais que ce vieux salopard bluffe. Désormais, je suis plus avisé. Athénée se relève et, se dressant à moins d'un mètre de la brèche sur le Tartare, déclare
« Noble père, fils de Cronos, ô monarque suprême, nous connaissons ta puissance. Qui est de taille à te résister ? Pas nous. »
Tous les immortels semblent retenir leur souffle. Le tempérament d'Athénée est légendaire. Ses talents de diplomate limités, si elle dit un mot de trop.
Néanmoins,
reprend la fille de Zeus,
Nous avons pris ces mortels en pitié, et notamment mes guerriers argiens promis à la mort, qui jouent leur petit rôle sur cette petite scène, périssant d'un horrible trépas, se noyant dans leur propre sang au terme de leur petite vie.
Elle fait deux pas de plus, plantant ses sandales au bord de l'abîme de noirceur. Quelque part, à des milliers de mètres en contrebas, au sein des ténèbres du Tartare zébré d'éclairs, une créature titanesque pousse un hurlement de souffrance et de terreur.
« Oui, Zeus, »
poursuivit Athénée,
« nous nous tiendrons à l'écart de cette guerre ainsi que tu nous l'ordonnes. Mais accorde-nous, à tout le moins, la permission de souffler à nos favoris parmi les mortels des tactiques susceptibles de les sauver, de leur épargner la foudre de ton immortel courroux. »
Zeus considère sa fille durant un long moment, et je suis incapable de déterminer son humeur. Est-il furieux, amusé, impatient?
Tritogénie, ma troisième née, ma chère fille, ton courage m'a toujours été cause de migraine. Mais ne désespère pas, car la leçon que je vous ai donnée aujourd'hui ne procède pas d'une quelconque colère, mais de la volonté de vous montrer à tous qui êtes rassemblés ici les conséquences de votre indiscipline. »
Et cela dit, Zeus descend de son trône, et voici que son char personnel apparaît entre deux gigantesques colonnes tirées par deux chevaux aux sabots de bronze, de vrais chevaux et non pas des hologrammes ainsi que je le constate, dont la crinière d'or cascade lorsqu'il se pose près de lui. Enfilant son armure d'or et saisissant son fouet, Zeus monte à bord de son char de combat et, obéissant à son ordre, l'équipage prend son élan et décolle du sol de marbre, effectuant un tour complet au-dessus des dieux et des déesses une fois qu'il a atteint une altitude de 30 mètres. Puis filant entre deux colonnes pour disparaître dans un rugissement de tonnerre quantique. Peu à peu, dieux, déesses et déités mineurs sortent du grand hall, murmurant et complotant entre eux. Et je songe avec une certitude absolue que pas un n'est disposé à obéir à son seigneur et maître. Quant à moi, je reste immobile quelques instants, invisible et ravi de l'être. J'ai la bouche grande ouverte et je respire par à-coups, tel un chien battu par un jour de chaleur. Peut-être même que je bave. Parfois, lorsqu'on se trouve à Olympos, on a du mal à croire au principe de causalité et à la méthode scientifique.